La revue de presse avec David Abiker.
Évidemment, dans la suite de notre entretien avec Thibault de Montbrial, la revue de presse et la une dans les journaux, c'est le procès de cet attentat atroce de Nice avec ce camion fou, ou plutôt de ce camion terroriste après un feu d'artifice dans une soirée de 14 juillet.
Attentat de Nice, la douleur des enfants du 14 juillet, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Pour La Croix, il s'agit pour les enfants de Nice de sortir du traumatisme. Pour la Provence, c'est le procès de l'horreur. Pour l'Alsace, un procès pour comprendre. Et Libération se demande si le procès sera à la hauteur des attentes des victimes en l'absence du terroriste abattu par la police. Pour Le Monde, c'est le procès de la barbarie terroriste. Le Monde qui pointe la grande difficulté de la justice à venir. Aucun des 8 accusés ne sera jugé pour complicité. 3 comparaîtront pour association de malfaiteurs terroristes et 5 personnes qui ne connaissaient pas l'auteur de l'attentat pour de simples infractions délictuelles relatives à la fourniture de son arme. Le fossé entre l'océan de douleur que porteront les victimes à la barre et l'insignifiance des accusés n'a sans doute jamais été aussi abyssal dans un procès, note Le Monde, dans un procès terroriste. Le risque de décevoir les parties civiles en quête de réponse est immense.
Fossé immense également entre les Anglais et le choix de leur futur Premier ministre.
Même si les Anglais sont plus préoccupés par la facture du chauffage qui arrive cet hiver, la presse tire depuis quelques jours le portrait de celle qui, en toute probabilité, devrait succéder à Boris Johnson. 47 ans, ministre des Affaires étrangères, resté fidèle jusqu'au bout à Bojo, quand son concurrent ex-ministre des Finances avait lui démissionné, rappel 20 minutes. Elle est née à Oxford, Liz Truss, dans une famille de profs très ancrée à gauche. Elle fait ses études d'art au prestigieux Merton College d'Oxford. C'est là qu'elle découvre le militantisme politique, expliquait il y a quelques jours le Figaro. Alors, que fait-elle? Elle entre au Parti libéral démocrate, un parti centriste, et prend la parole. En 1994, elle est étudiante à ce moment-là, devant le congrès de ce parti pour demander quoi? L'abolition de la monarchie, rappelle le Figaro. Un comble pour celle qui porte le même prénom que la reine Elisabeth et en second prénom celui de la reine mère, Mary, observe amusée Les Échos dans un portrait du mois de juillet dernier intitulé « La girouette de fer ». Car Liz Truss ne reste pas centriste longtemps. Après un parcours comme directrice commerciale dans le privé, elle est repérée par David Cameron et investie pour les élections en 2010.
Et elle est élue députée.
Commence dès 2012 une carrière ministérielle fulgurante. Ministre sans discontinuer de Cameron, puis de Theresa May, puis de Boris Johnson, elle n'a pas appelé au Brexit en son temps, mais n'a jamais varié dans ses positions anti-européennes. Depuis qu'elle est en campagne pour le 10 Downing Street, Liz Truss multiplie les clins d'œil à Margaret Thatcher. Porte des tenues bon marché, des chemisiers à fleurs, suggérant que son concurrent issu de la finance est trop luxueusement habillé. Ses boucles d'oreilles à 4 euros rappellent Le Monde Magazine et ses mocassins en faux croco imitation Gucci sont devenus un sujet de campagne. La dame a son franc-parler et comme toute personnalité anglaise qui compte, a eu les honneurs des tabloïdes. Elle a trompé son mari 18 mois avec un député conservateur sans dommage politique majeur. De l'éducation à la justice en passant par l'égalité jusqu'au Foreign Office, Liz Truss est qualifiée de faucon par Les Échos. Anti-russe, anti-chinois. Quant à la France, lorsqu'on lui demande récemment si Macron était un ami ou un ennemi, elle a répondu « Le jury est toujours en train de délibérer », rapporte Le Parisien. Et elle a ajouté « Si je suis élu, je deviens Premier ministre, je le jugerai sur les actes et pas sur les mots », ça promet.
La droite anglaise pourrait inspirer la droite et les Républicains français.
Si l'avenir de la droite vous passionne, il y a de quoi faire ce matin dans les journaux. Pour Le Monde, les Républicains sont en pleine crise existentielle. Comme un vent de Ciotti-mania, observe franceinfo.fr. Bruno Retailleau, les coulisses d'une prise de risque. C'est dans l'opinion. Laurent Wauquiez, dans tous les esprits, observe le Huffington Post. C'est le grand absent du week-end politique à droite. Mais pour en revenir à ce qui se passe chez nos voisins britanniques, on lira en une du Figaro l'éditorial de Vincent Trémollet de Villers, qui analyse ainsi les options qui s'ouvrent à la droite républicaine pour retrouver enfin la faveur des Français. Il y a l'option à l'italienne, celle de l'alliance des droites avec LR en force d'appoint du macronisme ou du lepénisme et le rapport de force est défavorable. L'autre chemin, plus intéressant, explique l'éditorialiste du Figaro, c'est le chemin emprunté par les conservateurs anglais. Ils sont parvenus à réunir et la City des affaires et les campagnes oubliées, le monde rural, à convaincre les électeurs tentés par l'extrême droite sans perdre l'establishment londonien. Conclusion, la droite française doit arrêter les incantations anti-RN car on ne désarme pas la défiance des catégories populaires en leur faisant la morale.
En parlant de morale, le portrait de Libération nous parle d'un nouveau métier. Alors c'est très simple, mais c'est très compliqué. Sensitivity Reader.
Le portrait est intitulé Robinson intersectionnel et nous parle de River Solomon, une autrice que le chapeau de Libération décrit ainsi dans un français que je ne comprends plus car je suis vieux. La romancière afro-futuriste, noire et non-binaire, imagine des fictions SF et exerce en tant que Sensitivity Reader. Sensitivity Reader, c'est quoi? Ça consiste à aider les auteurs américains à éviter les clichés sur un vécu qui n'est pas le leur. Cher River Solomon, lui écrit donc un romancier, pourriez-vous vérifier que mon livre n'est pas raciste? Et elle de souligner, après relecture, que le personnage féminin de la femme célibataire et employée de maison est une sorte de stéréotype de femme noire. En clair, si Zola avait écrit aujourd'hui aux États-Unis, son éditeur lui aurait flanqué les services d'un Sensitivity Readers pour s'assurer que la Gervaise de l'Assommoir n'était pas un cliché de femme. Quant à Flaubert, il aurait probablement fait l'objet de nombreuses corrections en rouge dans la marge, le vilain, qui l'aurait obligé à revoir le personnage de Madame Bovary. Avec les Sensitivity Readers, les Américains ont en quelque sorte inventé le métier de commissaire politique à la littérature. Avant, autrefois, ce commissaire politique était un ministre stalinien. Aujourd'hui, c'est un Sensitive Readers salarié par un éditeur privé. J'appelle pas ça un progrès.
Il est 8h41 sur l'antenne de Radio Classique. Merci David. Vous savez que les Rolling Stones en concert ne jouent plus jamais Brown Sugar. C'est une sorte de censure qui se sont finalement appliquée à eux.
Mais ils ont qu'à réécrire les paroles.
8h41, voici.